commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passées, présentes et parfois même futures. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Bonjour, un livre ? Oui, mais quel livre ? Alors, avec l'Oiseau des Lires, aujourd'hui on va parler de lecture et on va parler de lecture de l'imaginaire et surtout de science-fiction. Alors, science-fiction, c'est un thème qui me passionne déjà à la base, moi. La science-fiction, c'est quelque chose qui est très intelligent dans le sens où c'est prendre un événement passé, présent ou futur et définir une possible. Donc, à la différence de la fantasy qui est inexplicable, la science-fiction s'appuie sur une base scientifique, que ce soit une uchronie, par exemple, quand on modifie le passé ou autre. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de science-fiction. Et avec un premier titre que j'ai beaucoup de mal à décrire, parce qu'il m'a beaucoup perturbé quand je l'ai lu, quand même. C'est une trilogie, c'est La Guerre du Bruit. La Guerre du Bruit avec le premier volume, donc La Voix du Couteau. Nous sommes à Apprenticeville, petite ville, on ne sait pas trop où, d'ailleurs la planète n'est pas définie, on le saura bien après, qui a vu un virus arriver et détruire et tuer toutes les femmes et causer des mutations, notamment au niveau des pensées. C'est-à-dire que les animaux pensent et on entend les pensées. Les hommes pensent et on entend les pensées. Ce que notre jeune héros, Todd Yewitt, va appeler le bruit. Puisqu'on va avoir beaucoup, beaucoup de bruit dans ce livre. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a beaucoup de pages. C'est très dur d'en parler par radio de ce bruit, puisqu'il y a des pages qui sont définies très chaotiques, avec plein d'écritures partout. Et le vocabulaire s'est appauvri, ce qui explique aussi toutes les fautes d'orthographe du livre qui ne sont pas voulues, ou plutôt qui sont voulues d'ailleurs, qui ne sont pas du tout involontaires, et ni une faute de la part de l'auteur, ni de l'éditeur. Vu que toutes les femmes sont mortes et que ce village compte 287 âmes, pour être précis, et ben forcément, le vocabulaire s'est énormément appauvri. Donc, ce jeune garçon va devenir un homme. Voilà, c'est le début de l'histoire. Il va devenir un homme. Il va avoir 13 ans. Et dans ce village, on devient un homme à 13 ans. Et c'est très important parce que c'est le dernier. C'est le dernier enfant à devenir un homme. Et donc, un jour où il part chercher des pommes du côté de la rivière, il va découvrir deux choses qu'il n'a jamais vues. Donc, un trou dans le bruit, ce qu'il va appeler le trou dans le bruit. Une jeune fille. Rappelons que les jeunes filles, toutes les femmes et tout ce qui est féminin sont mortes dans leur village. Et surtout, il n'entend pas ses pensées. C'est pour ça qu'il l'appelle le trou dans le bruit. Et quand il va revenir au village, en essayant de camoufler cette pensée, en fait, puisqu'il se dit que c'est pas normal, malheureusement, il va se faire repérer, en fait, par la pensée. Et son oncle Ben et son oncle Kylian vont lui donner un sac tout de suite et vont lui dire « Va-t'en, sauve-toi vite, cours !» Et le voilà qui s'enfuit avec tout le village à ses trousses. Il s'aperçoit que des hommes le poursuivent. Il retrouve cette jeune fille et là, on va basculer dans ce monde étrange. Dans ce monde, en fait, où la vérité est tout autre, Prenticeville est isolé, certes, du reste du monde, mais le virus n'a pas tué les femmes, contrairement à ce qu'on pense. Le monde a changé, certes, et cette jeune fille proviendrait a priori d'un vaisseau spatial pour une colonie. Donc, la question qui se pose souvent dans ce livre, ça va être « Qui est un humain ?» Puisque l'humanité va être remise en cause énormément, déjà de par Todd, qui va essayer d'échapper à ses vieux démons et à sa ville, et aussi du fait qu'il y ait des Sparkles. Les Sparkles sont des créatures qu'on présente comme bêtes, des esclaves faibles, et on va s'apercevoir qu'ils ont une culture, une vie, et qu'on les a décimés. Donc, pourquoi ? Il y a beaucoup de questions qui vont se poser, c'est un roman assez perturbant sur bien des points, et le plus perturbant, je crois, c'est que son héros souffre énormément. Ces deux héros, Todd Yewitt et Viola, donc la jeune fille, vont énormément souffrir dans ce roman pour grandir et pour empêcher le maire de Prenticeville, et donc la ville, de prendre le pouvoir. Ce maire est très très étrange. Il contrôle sa pensée et il arrive à la projeter, ce qu'il appelle une projection, pour contrôler les autres. Ce que le jeune garçon découvre très tard, en fait, dans le roman. Voilà, c'est un récit de science-fiction assez étrange sur la liberté et sur le fait aussi que les planètes... Alors la planète Terre, on n'est pas sûr, on est un peu comme dans la planète des singes, quoi. C'est un peu, on ne sait pas trop si on est sur planète Terre, en fait, parce qu'on a des idées, on a l'impression que Todd Yewitt est un humain, mais en même temps, les Sparkles ont l'air parfois beaucoup plus humains que nos humains héros, en fait. Donc on va se poser plein de questions qu'on découvrira malheureusement qu'à la fin des trois volumes, qui sont tous exceptionnels, mais vraiment par contre très perturbants de ce côté-là, et sur la pensée et le bruit. C'était vraiment un grand récit aussi sur la liberté et l'amour par contre, parce que ce Todd essaye de conquérir sa liberté en fait. On va vite découvrir qu'il est pris au piège de ce monde. Alors le deuxième, c'est Zoanthrope chez Scrineo. J'en ai déjà parlé vite fait l'autre fois quand j'avais fait une émission sur Scrineo, mais en SF, ça se pose là aussi. Puisque suite à une catastrophe nucléaire, virus, la totale, le monde a changé et est séparé en deux. Les humains, normaux, enfin classique quoi. Et les zoanthropes. Les zoanthropes sont des mutants. Donc des mutations un peu à la X-Men, c'est-à-dire que des mutants animaux. Là, pour le coup, ce seraient des animaux. Donc en fait, chaque personne peut se transformer en animal. Enfin, ceux qui sont zoanthropes. Et le récit commence avec notre jeune héroïne, en fait, qui doit passer un examen, Sheena Sirkis, qui doit passer un examen pour savoir si elle est humaine. C'est un examen qu'ils ont tous à 16 ans, puisqu'à 16 ans, les mutations arrivent ou pas. Donc elle arrive, elle passe cet examen. Manque de chance, elle est zoanthrope. Et les zoanthropes, en fait, il y a une règle, quand les nouveaux zoanthropes, on leur laisse une chance de s'en sortir au premier. C'est-à-dire qu'on les met, on les lâche tous dans les rues de la ville, et tous les humains ont autorisation de tirer à vue. Et s'ils arrivent à atteindre le bus qui est à l'autre bout de la ville, autant dire, c'est une mission quasi impossible, hein, faut le savoir, eh ben, ils survivent. C'est une manière de faire un peu l'indice démographique. Et Sheena, donc, va s'échapper, et on va découvrir un autre pouvoir à elle. Parce qu'en fait, les zoanthropes peuvent tous se transformer en animaux, mais en animaux vivants et existants, on va dire. C'est-à-dire loutre, dauphin, enfin ce qu'on veut, lion. Mais Sheena a un pouvoir. Un pouvoir un peu étrange, du coup, elle se transforme en phénix. Et la seule personne qui se transformait en phénix avant elle a déclenché la guerre entre les zoanthropes et les humains. Donc, du coup, on vit dans ce monde futuriste avec Sheena qu'on va suivre, en fait, qui va nous emmener un peu dans cet univers un peu bestial aussi, d'un côté. Elle qui voyait zoanthropes comme des monstres au départ, qui s'en découvre être un, et qui découvre qu'ils sont humains tout à fait normaux, qu'ils ont des téléphones, qu'ils ont les mêmes connexions que les autres humains, va découvrir aussi un jeune homme qui va se réveiller de la glace, qu'on a cryogénisé, qui semble être au courant de beaucoup de choses. Pourtant, a priori, ça fait 300 ans, ou je crois que c'est un truc comme 300 ans qu'il était dans la glace, mais il semble être au courant des dernières innovations technologiques et surtout de Sheena. Il a l'air de la connaître. Donc on va découvrir plein de personnages comme ça, on va surtout rentrer dans cette ESF assez différente, où ça repose sur la différence entre les hommes et les animaux. Et donc, Sheena, en fait, qui est un phénix, va devoir apprendre à vivre avec ce pouvoir et surtout savoir pourquoi, puisque les humains voulaient la capturer pour faire des tests. Les zoanthropes ont l'air gentils comme ça, mais a priori, eux aussi voudraient s'en servir. Donc, elle se retrouve au milieu entre deux camps, avec comme choix soit sauver les zoanthropes, soit mourir finalement. Les humains ne semblent pas vouloir lui laisser beaucoup de choix. Donc, un super récit sur la différence, beaucoup d'action, et surtout, voilà, une vision futuriste un peu de notre monde avec des mutations. Très très intéressant, deux volumes de sortie à ce jour, toujours aussi bien les deux. Alors le dernier, enfin l'avant-dernier, puisque le reste c'est une collection, je vais vous expliquer. Cœur de rouille de Justine Nieugret, Pré au clair, la collection Pandore. Alors là on arrive dans un univers assez cyberpunk. Alors ce qu'on appelle le cyberpunk, c'est un univers assez étrange, qui n'est pas très répandu en jeunesse, qui commence à arriver. Le cyberpunk, en fait, c'est un univers futuriste, très très futuriste. Du coup, là, on part vraiment sur un mythe virtuel réel, souvent. Et le punk, là, est pris au sens négatif du terme, si je puis dire. C'est-à-dire que le punk, en l'occurrence, c'est un monde dépravé, souvent. Là, c'est souvent décrit un monde dépravé. William Gibson, en adulte notamment, avait fait énormément de titres sur le cyberpunk. Et bien là, Justine Nieugret s'y essaie en jeunesse, et de fort belle façon, je dois dire, puisqu'on va découvrir un jeune garçon et un golem. Alors les golems, a priori, ce sont des espèces d'automates. On n'est pas encore sûr, là, j'en suis à moitié du roman. Voilà, j'avoue, je ne l'ai pas fini encore, j'ai pas eu le temps. Et puis surtout, voilà, j'avais plein de choses à lire. Donc ça, ça en fait partie de mes lectures en ce moment. Donc on suit un golem, Dresde. Dresde, ce golem féminin, a priori. Le garçon la voit comme un féminin, qui veut s'échapper de la cité. Parce qu'a priori, nous sommes dans une cité plutôt étrange, puisque chaque cité avait des golems. Donc des golems, ce sont des espèces de créatures d'argile, avec une boule au fond de la gorge, en fait, qui semble contenir toute leur force. Donc une sorte de pile, a priori. Vu l'univers, ce serait plutôt une pile. Et ces golems ont voulu s'échapper un jour, et donc on les a emmurés. Clairement, on les a emmurés dans des étages en dessous. En fait, c'est une cité construite à plusieurs étages, un peu une manière de tour de Pise. Et on les a enfermés, on a soudé tout, on a tout empêché pour qu'il n'y ait pas de passage. Et Sax, ce jeune garçon, essaye de s'échapper de son monde qu'il n'aime pas trop. Il bosse dans une usine qu'il n'a pas envie. C'est fini.